Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin. Que faire de la dette publique exceptionnelle contractée pendant la crise du coronavirus? En l'espace de 3 mois et demi, l'État a déboursé dans l'urgence 150 milliards d'euros pour affronter la crise sanitaire. Eh bien hier, devant l'Assemblée nationale, lors du débat sur le troisième budget rectificatif, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a dévoilé ses intentions concernant cette dette Covid. Bonjour Éric Mauban.
Bonjour Dimitri. Bonjour à tous.
Voilà, l'idée fait son chemin à Bercy d'isoler cette dette Covid de la dette publique classique.
Voilà, il s'agit de cantonner la dette liée au Covid afin qu'elle fasse l'objet d'un traitement particulier. C'est une pratique à laquelle les gouvernements ont eu recours lors des périodes d'après-guerre. Plus récemment, c'est également cette option qui a été choisie pour traiter la dette sociale. Elle a été cantonnée dans une caisse dédiée baptisée CADES. Théoriquement, son remboursement est prévu d'ici à 2033. Ainsi, les milliards d'euros déboursés à cause du Covid feront l'objet eux aussi d'un rythme de remboursement particulier. Il dépendra du temps qu'il faudra pour retrouver une vitalité économique suffisante. Bruno Le Maire estime qu'il faudra 2 ans pour que la France retrouve le PIB de 2019, celui d'avant la pandémie. Le ministre de l'économie a martelé hier devant les députés que cette dette serait remboursée. La priorité du moment est de contenir la vague de chômage qui s'annonce. Bercy dit attendre 800 000 suppressions d'emplois d'ici la fin de l'année.
Merci Éric Mauban. La France s'endette pour soutenir son économie. Bercy d'ailleurs améliore le plan de soutien aux commerçants, artisans et indépendants. 400 millions d'euros d'abord sous forme d'exonération de cotisations patronales pour les mois de février, mars et avril, ainsi qu'un crédit pour justement payer ces cotisations 2020, et puis 500 millions d'euros de plus dans le fonds de solidarité pour aider les TPE jusqu'à fin juin. Selon Bercy, 15 à 30% des petits commerçants, artisans et indépendants ne sont pas sûrs de terminer l'année. En attendant, la pandémie, elle, s'accélère. Le pire serait même à venir, selon l'OMS, qui va envoyer la semaine prochaine une équipe en Chine pour tenter de déterminer l'origine du coronavirus. Aux États-Unis, Los Angeles referme ses plages, l'Arizona voisin referme les bars, les salles de sport et les cinémas. Les gouvernements européens doivent voter aujourd'hui pour décider d'ouvrir ou non les frontières extérieures de l'UE à partir de demain. Une quinzaine de pays sont envisagés. Quoi qu'il en soit, les États-Unis en sont exclus. Et la pression s'accentue sur Donald Trump, y compris parmi les républicains, pour qu'il porte le masque en public. Dans les intentions de vote pour la présidentielle de novembre, Donald Trump est désormais distancé de 8 à 10 points par le démocrate Joe Biden. Pendant ce temps-là, au Royaume-Uni, la situation sanitaire est difficile également. Le gouvernement reconfine la ville de Leicester, au centre de l'Angleterre, en raison d'une flambée de nouveaux cas de coronavirus. Boris Johnson doit présenter ce mardi un plan pour relancer l'économie britannique, plan rooseveltien de 5 milliards de livres pour construire et construire en mieux et en plus vert. Enfin, sur le front médical, sachez que le laboratoire Gilead a fixé le prix de son Remdesivir pour traiter le Covid-19. Ce sera près de 400 $ l'ampoule, soit un peu moins de 2 500 $ pour 5 jours de traitement.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
6h43, retour en France après le triomphe dimanche des écologistes aux municipales dans les grandes villes. Emmanuel Macron recevait hier à l'Élysée les 150 citoyens de la Convention sur le climat. De leurs 149 propositions, il en retient 146 sont retoquées, le passage à 110 km/h sur autoroute, l'interdiction de l'avion sur les voyages faisables en moins de 4 heures par train, et puis la taxation des dividendes à 4% pour financer la transition énergétique. Tout le reste, en revanche, sera repris et les membres de la Convention seront associés au suivi des mesures. Emmanuel Macron n'est pourtant pas un tenant de la décroissance. Il a tenu à être très clair sur le sujet hier, mais il est temps, selon lui, tout de même de changer le modèle productif. Écoutez.
Il y a un choix possible qui est de continuer à dire le cœur de notre modèle économique, c'est de produire sans se soucier de l'écologie. Plus exactement, l'écologie, c'est ce que les économistes appelleraient une externalité négative et on la corrige après. Ça n'est plus possible. Nous sommes aux limites de système. On doit remettre l'ambition écologique au cœur du modèle productif. C'est-à-dire chercher, par ces transformations, ces investissements, à produire différemment.
Emmanuel Macron hier sur la pelouse de l'Élysée. Direction à présent l'Alsace où cette nuit le second réacteur de la centrale de Fessenheim a été débranché du réseau électrique. Extinction des feux pour la doyenne du parc nucléaire français, mise en service en 1977. Des 700 salariés d'EDF, les deux tiers ont choisi d'être mutés dans d'autres centrales. Les autres vont rester pour tenter une reconversion. Prochaine étape pour la centrale maintenant, c'est le démantèlement. C'est une opération de longue haleine qui va prendre 20 ans, mais que maîtrise bien EDF. Il est déjà en train de le faire dans les Ardennes sur le site de Chaux A. Céline Cajoulis.
La première opération est aussi la plus sensible. C'est le retrait des 100 tonnes de combustible nucléaire actif du réacteur qui représente 99,9% de la radioactivité du site. Christophe Cassiotis, directeur des déchets à l'autorité de sûreté nucléaire.
Cela va consister à décharger les combustibles usés du réacteur dans une piscine. Les combustibles vont ensuite être refroidis pendant plusieurs années jusqu'à pouvoir être transporté dans des emballages spéciaux vers l'usine de retraitement de La Hague.
Le combustible quittera la centrale en 2023 et c'est à ce moment-là que débutera la déconstruction des installations et notamment de la cuve du réacteur et de toute sa tuyauterie. Thierry Charles de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
L'exploitant fait un rinçage des circuits dans l'objectif de réduire autant que possible la radioactivité résiduelle. Une cuve de réacteur s'est démontée en général au fond d'une piscine en profitant de la protection par l'eau, l'eau atténuant le rayonnement par des moyens conduits à distance par des opérateurs qui restent, eux, en surface et qui suivent les opérations par le biais de caméras.
Et ce n'est qu'en 2040 que la centrale sera totalement démontée et que le site pourra être utilisé pour d'autres activités.
En bref, pas de salon de l'automobile à Genève cette année. L'an prochain non plus. Les organisateurs annulent l'édition 2021 qui était prévue en mars. Une majorité d'exposants lui ont fait savoir qu'ils préféraient y renoncer. Pas certain de surcroît que la situation sanitaire permette au printemps prochain d'accueillir 600 000 visiteurs et 10 000 journalistes à Genève. Dans l'aéronautique, Airbus confirme la baisse de sa cadence de production. L'avionneur considère que les livraisons seront inférieures jusqu'à l'an prochain de 40%. Le groupe envisagerait d'annoncer d'ici juillet la suppression de 14 à 20 000 postes sur 135 000. Coup dur également pour Boeing, alors que son 737 MAX effectuait hier soir son premier vol de certification. La compagnie apprenait au même moment la décision de Norwegian d'annuler une commande de 92 exemplaires de l'appareil. Alors heureusement, le vol test s'est a priori bien passé. L'enjeu est énorme pour Boeing. Écoutez Marc Durance, il est associé au cabinet de conseil Archery Strategy, spécialiste du secteur aéronautique.
C'est pas une question de survie pour Boeing, mais c'est une question sur sa capacité à remettre rapidement le 737 MAX en service, sachant que le 737 MAX est sur le créneau des moyens porteurs, qui est le créneau le plus grand et celui qui devrait connaître le redémarrage le plus rapide. Donc il faut pas se louper. Mais d'une manière générale, si le vol d'essai a lieu, c'est que, sauf incident imprévu, les sujets ont été déjà pré-traités.
Voilà, Marc Durand, spécialiste de l'aéronautique. La bourse pour terminer, Paris en petite hausse hier, plus 0,73%, 4995 points. C'est l'optimisme qui l'emporte malgré les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire l'épidémie qui progresse encore aux États-Unis et puis les tensions persistantes avec la Chine. Pékin a voté cette nuit la loi de sécurité nationale pour Hong Kong. Le marché retient surtout le soutien des banques centrales et puis l'espoir du plan de relance européen. Angela Merkel et Emmanuel Macron pressent d'une même voix les 27 pour trouver un accord mi-juillet sur le plan à 750 milliards proposé par la Commission européenne. C'est d'ailleurs demain, je vous le rappelle, que la présidence de l'Europe change de main. La Croatie cède son siège à l'Allemagne. À noter enfin à Wall Street, le Dow Jones plus 2,32% grâce à Boeing qui bondit de près de 14%. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de bonnes nouvelles pour Boeing et le marché la salue. 6h48, le focus dans un instant.